Les chemins de traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans les chemins de traverse pour des balades sur la côte atlantique. Nous sommes sur la côte charentaise, 15 km avant l'île d'Oléron, dans les marais. Escale atlantique à la place forte de Brouage. Lors de notre précédent rendez-vous, nous sommes montés sur les remparts, nous avons marché sur les pas de Marie de Mancini et de Louis XIV. Nous voilà maintenant de retour au cœur de la cité, où après nous avoir parlé des premiers amours de Louis XIV, notre guide va nous parler de ses derniers amours, et vous allez entendre que Brouage est à nouveau au cœur de l'histoire.
On va faire un petit bond dans le temps, on va reculer un petit peu dans le temps. Et ici à Brouage s'est battu Agrippa d'Aubigny, qui était un grand écrivain, un grand poète, qui était aussi un citoyen engagé, protestant, et qui n'a jamais renié ses idées religieuses, contrairement à d'autres. Il faut savoir que pendant les guerres de religion, selon l'air du temps et le sens du vent, on était une fois catholique, une fois protestant. Hein. Pas tout le monde, hein, mais ça se faisait aussi. Agrippa d'Aubigny, non. Il s'est battu ici à Brouage, il a même été fait prisonnier à Brouage. Et il a été enfermé sur l'île d'Oléron, au château d'Oléron. Agrippa avait une famille avec des enfants et des petits-enfants. Et l'une de ses petites filles, Françoise d'Aubigny, s'est retrouvée orpheline de mère, jeune. Ses parents, à l'époque, étaient dans les îles. Donc son père, quand il a été veuf, est rentré en métropole. Et le but du jeu pour Monsieur d'Aubigny père, eh bien, c'était de marier Fifi le plus tôt possible parce que ça coûte cher une fille à élever. Puis malheureusement, roturier, donc elle, roturière, pas de dot. Et quand on n'a pas de dot en ce temps-là, on ne choisit pas son mari. C'est lui qui veut bien vous prendre. Hein. Et en fin de compte, celui qui a bien voulu de la petite Françoise qui était bien jeunette, eh bien c'est Scarron. Scarron, c'est un monsieur qui est très vieux, mais très très vieux. Il n'a rien pour lui, rien, sauf son esprit. Il a beaucoup d'humour aussi, ce monsieur. Et à cause de tout ça, ou grâce à tout cela, eh bien, il est roturier lui aussi. Il est toléré à la cour du roi Louis XIV parce que justement, il anime les soirées. Et en fin de compte, Françoise, son épouse, va forcément avoir accès à la cour, elle aussi, puisque Scarron y va. Alors, elle va croiser Louis XIV. Et puis, entre les deux, va naître une réelle amitié, vraiment. Ils se respectent beaucoup, beaucoup. Hein. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Scarron meurt. Et Françoise se trouve dans une situation encore pire que celle d'avant s'être mariée. Parce qu'elle n'a toujours pas d'argent. Son mari, brillant esprit, mais pas trésorier pour deux sous. Au contraire, plein de dettes. Donc elle n'a pas d'argent, pas de dot. Elle est obligée de vendre la maison pour éponger une partie des dettes de son mari. Et de toute façon, ça ne solde pas le compte. Alors Louis XIV lui dit: t'inquiète pas, je vais te sortir de là, je vais te trouver du boulot. Et c'est vrai. Il l'a embauchée pour être la gouvernante de ses enfants. Pas n'importe lesquels, hein. De ses bâtards, de ses enfants illégitimes. Pas tous non plus, non. Seulement ceux qu'il a eus avec Madame de Montespan. Un petit peu plus quand même, mais surtout ceux qu'il a eus avec Madame de Montespan. Et puis les années passent, tout se passe bien, et un jour, Louis XIV décide d'anoblir Françoise. Elle deviendra Madame de Maintenon. Lorsque Marie-Thérèse meurt, Louis XIV va épouser en secret Madame de Maintenon. Il faut savoir que Louis XIV était, malgré toutes les maladies qu'il a pu avoir, d'une constitution hors du commun, très très robuste. Il est mort, il avait 85 ans à peu près. Hein. Et Madame de Maintenon, elle n'était pas trop mal non plus, elle, hein, 74, hein, je crois. Et à 71 ans, on dit, on ne peut pas vérifier, hein. Mais il se dit, elle se plaignait à 71 ans, Madame de Maintenon. Elle se plaignait de son roi de mari, parce que quand même, hein, être honorée matin et soir à son âge, c'est un peu fatigant, quoi. Hein. Connaissant Louis XIV, ma foi, pourquoi pas ?
Brouage se visite, se découvre comme un récit de voyage dans le temps. Les monuments, les différents lieux de cette citadelle nous livrent des histoires de personnages aujourd'hui disparus. Nouveau bond dans le temps.
Allez, on revient à Richelieu quand même. Hein. Richelieu, il est arrivé ici, je vous ai dit, en 1627 pour une raison bien précise. En fait, sur ordre du roi, il doit aller faire le siège de La Rochelle. Le but du jeu, c'est de bouter hors de La Rochelle les protestants et les anglais. Alors Richelieu obéit aux ordres et prend Brouage pour arrière-base. Il part faire son siège et là-bas, il va faire un petit peu ce qui s'est passé ici en 1586 avec le port, sauf que là-bas, il va faire construire une digue pour anéantir le port, en tout cas couper toute communication maritime avec la ville. Et puis, du côté terrestre, les soldats tiennent leur position. En conclusion, la ville de La Rochelle est complètement coupée du monde. Le siège va durer 13 mois. C'est long, 13 mois, très très long. Au bout de 13 mois, ils se rendent. C'est un spectacle d'apocalypse. Il y a quelques survivants, très peu. En remerciement, Louis XIV va nommer Richelieu gouverneur de Brouage. Et c'est là, à partir de 1628 et jusqu'à sa mort, que Brouage va très bien vivre sous le règne, entre guillemets, de Richelieu. C'était un homme exigeant, mais c'est un homme aussi qui a monté la ville vers le haut. Franchement, florissante, 4000 habitants, cosmopolite, beaucoup d'échanges commerciaux, tout, des constructions. On vivait très très bien, dans le confort pratiquement.
Comme notre guide parle en marchant, et qui plus est en marche arrière, nous voilà rendus devant un grand bâtiment en plein milieu d'une zone herbeuse et entouré d'un mur. Explication.
Le dernier bâtiment qu'il a fait construire, enfin pas le dernier, mais le dernier dont je vais vous parler là, c'est la halle aux vivres que nous avons devant nous. C'est ce grand bâtiment de briques rouges sur deux niveaux. C'est un bâtiment qui fait 65 mètres de long sur 11 de large. À l'étage, on stocke 300 tonnes de blé sur un plancher de bois. Au rez-de-chaussée, on stocke tout le restant dans des barils. Le sel, l'huile, la viande séchée, le poisson, le vin, l'eau de vie, le vinaigre. Oh, beaucoup, beaucoup de vinaigre. À cette époque-là, les soldats doivent en boire un verre tous les matins. Eh bien oui, parce qu'à cette époque-là, on dit que le vinaigre possède de la vitamine C. On ne se soucie pas des ulcères à l'estomac des soldats, c'est pas grave.
À la prospérité suit l'oubli, puis le début de la décadence.
Lorsque Richelieu meurt, Brouage, c'est le début du déclin. 4000 habitants sous son règne en 1630, 120 habitants au début du 19e siècle, et entre deux, inexorablement, on descend, tout doucement, vers la ruine. Cette descente va quand même vite s'accélérer dès 1666, parce que cette année-là, le grand Colbert demande à son neveu Colbert de Théron, qui est gouverneur ici, la construction d'une ville moderne, à l'image de Brouage, mais en bord de Charente, à l'abri des Anglais. Et il va construire Rochefort, Colbert de Théron. Et Rochefort, c'est une ville moderne, comme Brouage, mais il y a un siècle d'écart entre les deux. Brouage 1555, Rochefort 1666. Donc en fin de compte, notre Jacques de Pont, là, avec pas beaucoup d'ambition, bah, il n'était pas si mal, hein, mine de rien.
Rochefort-sur-Mer, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Brouage, sur les bords de la Charente. Cette agréable et belle ville que je vous invite à aller découvrir possède entre autres bâtisses une corderie royale. Située sur les bords de Charente, ce bâtiment d'une longueur de 74 mètres était au XVIIe siècle la plus longue manufacture d'Europe de cordage. Vous pouvez y découvrir toute l'année l'histoire du site et la fabrication des cordages, vous initier aux nœuds marins et flâner dans la librairie maritime très bien fournie. Étant à Rochefort, profitez-en pour aller visiter la très originale maison de Pierre Loti, faire une balade fluviale sur la Charente à la découverte de l'arsenal, et pourquoi pas flâner parmi les étals de la halle et du très beau marché se déroulant tous les samedis matins.
Ce bâtiment, à partir du moment où les gens vont à Rochefort parce que c'est la nouvelle ville à la mode, c'est en plus un arsenal militaire, Rochefort. Hein. Ici, comme on est tous là-bas à Rochefort, ça se déserte. Aussi bien les civils que les militaires. Alors, tous les bâtiments sont à l'abandon. Et un jour, parce qu'on se bat toujours à coups de boulets de canon et de poudre, eh bien, là-bas, à Rochefort, on a un problème de stockage de poudre. Alors, on se souvient qu'ici, il y a une espèce de grand bâtiment qui pourrait peut-être bien nous servir. On va stocker dans la halle aux vivres jusqu'à 1 million de kilos de poudre. En même temps, hein, on cumule pas les quantités. Voilà. Bon.
À côté de la halle aux vivres, l'îlot dit l'îlot de la halle.
Là où vous voyez de l'herbe tout autour, avant c'était des pâtés de maison. Les gens habitaient là, à l'époque de Richelieu.
Cet îlot était entièrement bâti. La tonnellerie, la halle aux vivres, l'arsenal, mais aussi plus d'une vingtaine de demeures et trois rues.
Et en 1816, il y avait encore de la poudre dans ce bâtiment. Les gens se sont inquiétés de leur sécurité, alors sont allés trouver les autorités locales. Et puis leur ont dit, bien, que fait-on? si ça va exploser, si ça doit exploser. Pas de problème, on va réfléchir, on va vous donner la réponse. Ils l'ont eu leur réponse, 40 ans plus tard. En 1856, il est décidé de raser les maisons trop proches de la halle aux vivres et de construire un petit bout de mur semblant d'enceinte, là, hop, voilà, le mur que vous avez là, pour protéger les gens. Il n'empêche que si ça avait explosé, vous ne seriez pas là en train de le visiter, et puis moi, je ne serais pas en train de vous l'expliquer, hein, on est d'accord, voilà. Ce bâtiment a été complètement en ruine, complètement. Il n'y avait plus que la base, et encore, avec plein de ronciers à l'intérieur. Ça a été le premier bâtiment classé au patrimoine, pour être sauvegardé, et il a été restauré parfaitement d'après les plans et les indications de l'époque. Il est reconstruit à l'identique, et il est magnifique. C'est vraiment un très très beau bâtiment. Aujourd'hui, toute l'enceinte et tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'enceinte de Brouage est classé.
La halle aux vivres accueille maintenant au rez-de-chaussée une exposition permanente qui se renouvelle régulièrement au fil des années et également des expositions temporaires. L'étage est un centre documentaire ouvert aux chercheurs.
Ça va ? Alors, ça c'est la halle aux vivres de Richelieu. Mais notre Jacques de Pont, là, tout modeste qu'il est, il avait aussi songé à sa halle aux vivres et vous l'avez là à côté. Aujourd'hui, ça s'appelle la tonnellerie parce que ce bâtiment-là a servi à fabriquer les tonneaux et les barils lorsque là, on a décidé de mettre 1 million de kilos de poudre dedans en stock. Et ça s'appelle toujours la tonnellerie aujourd'hui. Mais à l'époque de Jacques de Pont, c'était la halle aux vivres et l'arsenal militaire, en fait. Il y avait les deux dedans.
La tonnellerie accueille de nos jours des expositions temporaires sur la création contemporaine dans les domaines des arts plastiques et des métiers d'art. Exposition dont le titre générique est les traversières des arts et elles permettent de faire découvrir, de faire connaître les artistes et artisans des deux rives de l'Atlantique. Cela permet de voir des œuvres uniques, originales et d'approfondir à travers ces expositions les échanges et les relations que Brouage entretient avec le Québec.
Deux choses remarquables dans ce bâtiment-là. Vous voyez que pour y accéder, il y a des marches. Et dans trois de ces marches, vous avez des trous. Eh bien, ces trous, à l'époque, c'était révolutionnaire. C'est le système d'aération pour ventiler la pièce puisqu'il y avait les denrées alimentaires à l'intérieur. Autre chose à remarquer, c'est l'avancée au fond à gauche où il y a une porte maintenant là. Eh bien, à Brouage, on avait un sérieux problème d'eau quand même. Hein. Il y a des puits devant chaque maison, mais si on creuse, on obtient de l'eau saumâtre. Et l'eau salée, on ne peut pas la consommer, on en meurt de trop en consommer. Il a fallu trouver une autre solution. En fin de compte, ce bâtiment-là, l'avancée, servait à abriter une citerne de récupération d'eau de pluie. Et dans la ville, il y en avait 15 comme ça, identiques de citernes. 5 étaient dédiées à l'usage du roi, du gouverneur et de leurs invités. Et les 10 autres, les habitants de Brouage se partageaient l'eau potable sans souci. Il n'y a jamais eu la guerre de l'eau à Brouage. Alors le puits, bah oui, ça servait à faire la vaisselle, à récurer, à laver les vêtements, à se laver, mais pas à boire. Dans le rempart, là, vous voyez un tunnel. Richelieu avait pensé également aux égouts. Et là, c'est donc la sortie des égouts. Les eaux usagées passaient au milieu de la route, comme c'était la coutume à l'époque, hein, et partaient tranquillement à la mer, puisque derrière le rempart, on a forcément la mer. Hein. Et dans ces remparts, il avait également demandé la construction de latrines. Et vous en aviez sur les 4 côtés de la ville, hein, des latrines. Et ces latrines, en fait, eh bien, il a fait construire un mur devant le mur de rempart. Et entre ces deux murs, vous avez un escalier latéral de chaque côté. Et à l'intérieur, on conversait tranquillement à 16 des potins du village, dans chaque latrine. Là, le mur, regardez, vous allez retrouver plein de graffitis également. Parce que ce mur d'enceinte construit en 1856, eh bien, il a été construit avec des pierres de bâtiments déjà en ruine, puisque le village était déjà bien en ruine, hein. Et ce sont des pierres qui viennent d'autres bâtiments d'origine.
Ce bâtiment là devant nous, c'est quoi ?
On va y aller, c'est la poudrière de la Brèche. Donc nos latrines, c'est complètement à l'opposé de nous là-bas. C'est dans le mur, vous voyez deux trous, c'était les fenêtres. Et les latrines, c'était là-bas. Et à droite, ce que vous voyez, les drapeaux là, c'est l'entrée de la Maison Champlain, le musée dédié à la vie de Champlain que l'on abordera dans l'église tout à l'heure. Et là, avant de découvrir la poudrière, nous allons pénétrer à l'intérieur du port souterrain. Alors faites attention, il y a des marches, elles sont d'époque, elles sont usées, donc glissantes, mais il y a une rampe hein, pour se tenir.
Nous nous séparons le temps de descendre les quelques marches et de nous retrouver lors de notre prochain rendez-vous dans un des ports souterrains de Brouage.